Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Et donc Thierry Garcin, aujourd'hui, des enjeux internationaux français.
Voilà, avec notre invité Christian Lequesne, bonjour.
Bonjour Thierry Garcin.
Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris. Vous venez de publier justement un ouvrage intitulé « Ethnographie du Quai d'Orsay et les pratiques des diplomates français ». C'est aux éditions du CNRS. Alors, il faut le rappeler évidemment, mais ce n'est pas un cocorico, que la France possède quand même le troisième réseau diplomatique et consulaire dans le monde, après s'être fait récemment dépasser par la Chine, mais ce n'est pas un concours de beauté. Avant les bouleversements internationaux de 89-91, ses grandes priorités concernaient les rapports Est-Ouest et dans une moindre mesure, les relations avec le monde arabe et l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, le corps diplomatique français travaille dans un environnement profondément différent. Son métier est toujours quand même pour le diplomate de représenter, d'informer, de négocier, même s'il le fait parfois de moins en moins. Alors, il est intéressant de noter aussi et de savoir comment les diplomates sont formés, quelles sociétés microcosmes ils constituent, quelles sont leurs méthodes de travail privilégiées. Alors, vous avez en fait mené une enquête de terrain, on va dire, sur le front de la diplomatie française.
Oui, absolument. J'ai mené une enquête avec une position privilégiée pour un chercheur, puisque pendant 6 mois, du mois de janvier au mois de juin 2014, on m'a autorisé à suivre un certain nombre de réunions, à la fois l'administration centrale, puis ensuite dans plusieurs ambassades. Donc, ce qui m'intéressait en tant que chercheur, c'était justement de comprendre le sens social des pratiques des diplomates. Et pour ça, on ne peut le faire que si on voit les diplomates en action, c'est-à-dire si on voit leurs échanges, si on voit les lieux dans lesquels s'élabore la diplomatie, les salles de réunion, le bureau de l'ambassadeur, voilà. Et c'est à partir de là donc que j'ai écrit ce livre qui est un livre de chercheur.
Voilà. Alors évidemment, il y a toutes des réflexions sur la carrière, comme on dit, diplomatique. Et puis évidemment, c'est centré sur la personne même du diplomate avec des profils très différents. Et pour avoir pratiqué les ambassades de France à d'innombrables reprises pendant des années, évidemment à l'étranger par définition, on peut dire qu'on a tous les types. C'est une petite société. On a vraiment une variété de personnalités. Il y a une chose qui m'a frappé, qui vous a peut-être frappé, c'est que une ambassade, ça tient beaucoup à la personnalité de l'ambassadeur. C'est vraiment une constante.
Oui, bien sûr, il y a un élément subjectif qui est très important et que justement les études de sciences sociales prennent rarement en compte. Il ne faut pas oublier que la diplomatie continue à être un exercice où on essaie de créer de l'empathie, où on essaie de créer une relation qui permette de connecter des mondes différents. Et ça tient effectivement à des personnes. On est parfois très frappé d'ailleurs de constater combien l'appréciation des personnes est importante. Un historien qui a fait une très bonne thèse, qui s'appelle Mathieu Hochemont, sur les ambassadeurs de France en Allemagne, a regardé les appréciations de Das Vertikus Amt et sa conclusion, c'est que on insiste beaucoup sur la personnalité, les qualités humaines de l'ambassadeur de France, hein, pour ensuite dire voilà, notre relation avec la France a été bonne parce que la France a été bien représentée ou moins bien représentée. Effectivement, c'est un des points qui m'a intéressé dans cette enquête.
D'un point de vue sociologique, vous avez assisté ou on assiste plutôt depuis un certain nombre de décennies à une féminisation de la carrière, justement.
Oui, en sachant que la diplomatie traditionnellement a été construite sur des référentiels qui étaient assez masculins, hein, qui étaient celles de l'aventurier qui devait chausser les bottes du terrain, donc ça correspondait à l'image plutôt de l'homme, et dans tous les services diplomatiques aujourd'hui du monde, dans le monde occidental davantage, et c'est vrai en France, il y a cette idée qu'il faut donner plus de place aux femmes. En France, il y a eu beaucoup d'améliorations ces dernières années. En 2015, le chiffre que j'ai eu était de 30% de femmes ambassadeurs. Ceci étant, il y a encore des postes qui n'ont jamais, des grands postes qui n'ont jamais été occupés par des femmes, l'ambassade à Berlin, par exemple, la représentation permanente de la France auprès de l'ONU, n'a jamais été occupée par une femme, et aucune femme n'a eu pour l'instant la dignité d'ambassadeur de France.
La question du rang, évidemment, qui est très gaullienne, d'ailleurs plus que gaulliste, et la défense des intérêts de la France, des intérêts spécifiques, même dans l'enceinte européenne, est une constante.
Alors oui, d'abord, vous le rappeliez dans votre introduction, cette idée que la France a une vocation à s'intéresser à toutes les affaires du monde. Hein. On retrouve là le principe de l'universalité, alors qu'il y a un certain nombre de diplomaties qui font des choix très précis, qui sont ce que j'appellerais des diplomaties de niche, avec quelques priorités. C'est pas le cas non, pour ce qui est de la France. Maintenant, je sens quand même, et j'ai pris un risque dans ce livre, de parler de ce que j'appelle la carte mentale des diplomates, c'est-à-dire de ne pas considérer le diplomate simplement à partir de sa rationalité instrumentale, mais aussi à partir d'un certain nombre de croyances. Et là, je suis quand même très frappé de voir que dans la nouvelle génération par rapport à l'ancienne, cette idée qu'il faut miser toujours sur la spécificité de la France, ce qui voulait dire traditionnellement faire différemment des États-Unis dans une conception française. À mon avis, c'est un peu dépassé. On a aujourd'hui
ça va être rattrapé avec le nouveau président américain. Voilà, on va être obligé de faire un peu différemment des États-Unis.
C'est un point effectivement important, c'est que je pense que si ça a été dépassé, c'est aussi parce que le débat politique a évolué. Et imaginons un François Fillon élu président de la République, ce qui n'est absolument pas certain d'ailleurs, ça sera intéressant de voir si on revient à une conception, alors là, très gaullienne de la politique étrangère, qui à mon avis sera en décalage quand même avec l'évolution qu'a connue la diplomatie de carrière en France.
Est-ce que la recherche pour, évidemment, les ambassadeurs de postes prestigieux est également quelque chose qui dure?
Oui, bien sûr. Et là, il y a un élément important qui est le rapport aux politiques. Voilà. Alors, j'essaie d'être très nuancé parce que je ne pense pas que les diplomates de carrière soient pour la plupart d'entre eux des militants politiques. Pas du tout. Ils ont même une certaine distance par rapport à la politique partisane parce que ce sont des experts quand même. Mais il y a un moment où le fait d'être plutôt considéré de droite, plutôt considéré de gauche, ça se traduit à travers le choix d'un cabinet ministériel, par exemple, aide votre carrière. Et puis, vous avez bien sûr les postes stratégiques. J'ai cité le cabinet, mais c'est aussi, par exemple, servir la cellule diplomatique de l'Élysée. On fait une analyse sociologique des beaux profils de carrière, on se rend compte que pas mal de gens sont passés par l'Élysée.
Et puis il faut rappeler quand même aussi que ça peut être un métier et une activité à risque. On avait invité le responsable au Quai d'Orsay de la cellule de crise il y a quelque temps. Donc ça c'est très important dans la relation des diplomates, qu'ils soient chefs de poste ou pas, mais des diplomates avec la population française. Il y a là pour les cellules de crise un lien tout à fait évident.
Oui, parce que la population française, lorsqu'elle est à l'étranger, attend bien sûr une protection. On est dans un pays où, traditionnellement, on attend beaucoup de l'État. C'est une caractéristique française.
En le décriant toujours. Il faut toujours le décrire.
C'est la même chose. Et là, j'essaie de redécouvrir un peu le métier consulaire qu'on n'a pas tellement étudié du point de vue des sciences sociales. Et je suis assez frappé de voir quand même, quand on fait une étude comparative, la générosité des consulats de France par rapport à d'autres pays européens.
Et oui, et c'est votre dernier chapitre. C'est très intéressant parce que c'est une activité parfois ingrate, sans doute assez fastidieuse, très administrative et méconnue. C'est-à-dire le travail du consul et de ses équipes. Quand on dit l'ambassadeur, c'est la même chose et de ses équipes.
Parce qu'on l'a perçu essentiellement comme une question technique. Et d'ailleurs, les diplomates de carrière, l'ont longtemps perçu aussi comme quelque chose de technique, qui ne les attirait pas trop, dans le fond, à part quelques consulats généraux où on fait un travail qui est proche d'une ambassade. Mais aujourd'hui, il y a de nouveaux enjeux liés à la circulation, bien sûr, des personnes, au fait qu'il y a une diaspora française de plus en plus importante. On estime entre 2 500 et 3 millions de Français aujourd'hui vivant à l'étranger. Beaucoup plus de mobilité des personnes, donc, et puis des enjeux liés, par exemple, à l'organisation des élections. On voit les partis politiques aussi qui s'intéressent davantage aujourd'hui aux communautés françaises à l'étranger. Prenez la primaire de droite, tous les candidats sont allés à Londres pour essayer de présenter leur projet à la communauté française. Voilà. Donc tout ça, ce sont des dimensions qui introduisent plus de politique dans le métier consulaire et qui amène certainement les diplomates à le découvrir davantage, et les chercheurs aussi.
Voilà, bah écoutez, on renvoie évidemment avec plaisir à votre ouvrage intitulé « Ethnographie du Quai d'Orsay, les pratiques des diplomates français ». C'est aux éditions du CNRS. Je rappelle, Christian Lequesne, que vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris.
Et Thierry Garcin, demain nous irons aux États-Unis. La remise en cause des relations entre les États-Unis et le Pacifique par Donald Trump.
Voilà, l'Asie-Pacifique dans son ensemble et surtout, par définition, la Chine. Et notre invité, qui sera en ligne d'ailleurs de Washington, donc, est Philippe Lecor, chercheur à la Brookings Institution.